Vous écoutez RFI, il est 1h en temps universel, 2h ici à Paris et à Niamey.
Gali Bonin.
Rencontre au sommet entre les chefs de gouvernement de l'AES, les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger se réunissent à Niamey. À l'ordre du jour, l'avenir de leur coopération dans la région. Quel impact a eu la chute de Bachar al-Assad sur le Hezbollah? Le mouvement libanais tente de garder la face, mais il sort de l'année 2024 grandement affaibli par sa guerre contre Israël et par la perte d'un allié cher. Le dernier grand hôpital du nord de Gaza en incapacité d'accueillir des patients après un raid israélien, l'Organisation mondiale de la santé déplore la situation sanitaire. Et le bras de fer continue entre le Brésil et la Chine, guerre commerciale qui va toucher maintenant les importations de bœuf par le géant chinois. Les liens entre les trois pays de l'Alliance des États du Sahel n'en finissent plus de se resserrer. Au moment où leur décision de quitter la CEDEAO semble irrévocable, les chefs de gouvernement des trois pays ont décidé de se réunir, une rencontre qui permettra d'échanger sur les voies et les moyens de renforcer leurs liens de coopération. C'est une première, notamment en raison des récentes nominations. Le général Abdoulaye Maïga est arrivé en poste en novembre au Mali et Jean-Emmanuel Ouédraogo au début du mois au Burkina Faso. Cette rencontre au sommet aura lieu autour d'un combat de lutte, Paul Lorgeri.
C'est sur invitation de leur homologue nigérien que les deux premiers ministres burkinabé et malien ont foulé le sol nigérien hier en début de soirée. Le chef du gouvernement burkinabé, dont c'est la première sortie internationale après sa nomination à la tête de l'exécutif, effectuera une visite de travail de 3 jours. Les trois personnalités de l'AES mettront à profit cette rencontre pour renforcer la coopération entre leurs États, au moment où de grandes opérations conjointes entre les armées des trois pays ont été lancées dans la zone des trois frontières. L'une d'entre elle, nommée Djekabara, et qui s'est déroulée entre le 15 et le 22 décembre, avait pour objectif de démanteler les bases terroristes à l'aide de vecteurs aériens. Une rencontre que les chefs de gouvernement ont décidé d'immortaliser lors de la finale de la 45e édition de lutte traditionnelle, qui se déroulera aujourd'hui dans la ville de Dosso, à 100 km de Niamey, avant qu'il soit reçu par le chef de la junte, le général Abdrahman Tiani.
Paul Lorgeri. En Syrie, c'était une institution extrêmement redoutée sous le règne de Bachar al-Assad. Damas annonce la dissolution des services de sécurité. Le chef des services de renseignement syrien, à peine arrivé en poste, dit vouloir restructurer ses services. Il accuse ce bras armé des Assad d'avoir accablé le peuple pendant plus de 5 décennies. Et la chute de cette dynastie qui a des impacts au-delà des frontières syriennes, c'est particulièrement vrai au Liban où le Hezbollah était l'un des plus proches alliés de Bachar al-Assad. Affaibli par la perte d'un soutien précieux et par la défaite infligée par l'armée israélienne, le mouvement chiite est ébranlé et l'élection du président approche au Liban. Pendant des années, le Hezbollah a réussi à imposer ou à tenter d'imposer son candidat. Le mouvement assure que la résistance va continuer, mais en a-t-il encore les moyens? On a posé la question à Joseph Baou, professeur de sciences politiques à l'université américaine de Beyrouth.
Le parti a perdu très très concrètement, très matériellement, pratiquement 70% de ses capacités humaines, logistiques, en armes, en munitions et en capacité de se réapprovisionner avec la chute, disons, du domino syrien. Je crois que les déclarations de Naïm Qassem sont très largement rhétoriques, adressées à son public. Il a besoin quand même de garder un certain moral face à un public qui est aujourd'hui extrêmement, disons, démoralisé, blessé aussi. C'est une société qui a aujourd'hui un ego très profondément blessé, qui s'est vu humilié par l'armée israélienne, qui est aujourd'hui déplacé physiquement, qui a perdu beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de biens, mobilier, immobilier. La société chiite est à reconstruire aujourd'hui. Donc le Hezbollah, qui se considère en tout cas en partie responsable de cette société, a besoin de lui remonter le moral et de continuer à la mobiliser sur le thème de la résistance. Le problème, c'est que cette mobilisation ne peut pas aller très loin et je crois qu'à un moment donné, le parti va devoir faire le choix de mobiliser sa propre société sur d'autres thématiques.
Joseph Baou au micro de Charlotte Hydrac. Direction Gaza maintenant, où la population du nord de l'enclave est désormais privée de tout accès aux soins médicaux. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré hors service l'hôpital Kamal Adwan après une opération israélienne. C'était le dernier grand établissement de santé dans cette zone. Les derniers patients et le personnel soignant ont été transférés de force vers un autre établissement, établissement qui est pourtant déjà détruit par des bombardements. L'OMS se dit consternée par les actions de l'armée israélienne. Margaret Harris est porte-parole de l'agence onusienne à Genève.
Une grande partie de l'hôpital a été incendiée et est sérieusement endommagée, y compris le laboratoire, les salles d'opération, le département technique et de maintenance, ainsi que l'unité de stockage pour les médicaments. Dans un premier temps, 12 patients et des infirmières ont été évacués de force vers l'hôpital indonésien, mais il faut savoir que ce dernier est déjà détruit et ne fonctionne plus. Il n'y a plus de nourriture, ni d'eau et rien qui permette de soigner des malades. Au moins 15 patients en état critique, 50 soignants et 20 membres du personnel médical se trouvaient encore à l'intérieur de l'hôpital hier soir. Mais selon ce que nous savons, ils ont eux aussi été transférés vers l'hôpital indonésien entre-temps. Mais comme je le mentionnais déjà, cet hôpital ne dispose ni de l'équipement nécessaire, ni d'un approvisionnement pour prendre soin des patients. Nous sommes donc très inquiets pour ces personnes.
Very, very concerned about the well-being of those people.
La porte-parole de l'OMS, Margaret Harris. Nouvelle journée de manifestation en Géorgie, à la veille de l'investiture du président Mikhailei Kavelashvili. Des milliers de manifestants pro-européens se sont rassemblés dans la capitale. Ils ont formé une longue chaîne humaine pour réclamer la libération des personnes incarcérées durant les précédentes manifestations anti-gouvernementales. Elles se sont multipliées depuis l'élection du parti Rêve géorgien en octobre, une formation proche de Moscou et ultra-conservatrice. Mais l'opposition dénonce un scrutin truqué et réclame la tenue de nouvelles élections. En France, le Premier ministre repousse à lundi son déplacement à Mayotte. François Bayrou devait se rendre dimanche dans l'archipel décimé par le passage du cyclone Chido il y a 2 semaines. Il sera accompagné de plusieurs ministres, dont celui des Outre-mer, Manuel Valls. Matignon a exprimé la volonté du Premier ministre d'apporter des solutions concrètes en matière d'éducation, de santé et d'habitat, mais les raisons du report n'ont pas été précisées. Les Jeux olympiques de Paris ont émis moitié moins de gaz à effet de serre que les éditions de Londres ou de Rio de Janeiro. Le Comité international olympique annonce un total d'1 600 000 tonnes d'équivalent carbone, soit une baisse de 55% comparativement à la moyenne des Jeux d'été de 2012 et 2016. Avec ce bilan, Paris 2024 atteint les objectifs de réduction qu'il s'était fixés. Le ministre chinois du Commerce l'a annoncé ce vendredi. Pékin lance une enquête sur les importations de bœuf en provenance de l'étranger. Une annonce qui a provoqué la surprise au moment où les prix de cette viande s'effondrent en Chine. Surprise et colère en Amérique du Sud, alors que les relations commerciales se tendent avec le Brésil. Claire Fage.
Les importations de bœuf ont-elles porté préjudice à l'industrie chinoise de la viande? C'est ce qu'affirment les représentants chinois du secteur. Confrontés à de lourds excédents cette année, la plupart des élevages bovins chinois sont déficitaires. La consommation de bœuf a baissé avec le ralentissement de l'économie chinoise. Les prix de cette viande sont au plus bas depuis 5 ans, alors que dans le même temps, les importations, majoritairement en provenance d'Argentine, du Brésil et d'Australie, ont augmenté de 70%. L'enquête doit durer 8 mois, mais pourrait être prolongée et elle pourrait aboutir à une mesure de sauvegarde du marché chinois, c'est-à-dire à une augmentation des taxes, comme cela s'était produit avec l'orge australien en 2020, lorsque les relations avec Canberra s'étaient détériorées. Cette fois, Pékin pourrait faire coup double en imposant des taxes sur le bœuf étranger, contenter les producteurs bovins chinois et répondre aux taxes que le Brésil a imposées aux câbles et aux produits d'acier chinois.
Le compte-rendu de Claire Fage et la tension qui continue de monter entre le Brésil et la Chine. Les autorités brésiliennes ont indiqué vendredi qu'une enquête était en cours pour trafic international visant à l'exploitation d'ouvriers chinois. Il vise le chantier de construction d'une usine du géant chinois de la voiture électrique BYD. Alerte rouge le long des côtes péruviennes. Le pays d'Amérique du Sud annonce la fermeture temporaire de 91 ports en raison d'une forte houle. Ça représente les 3/4 des infrastructures portuaires du pays qui donne sur l'océan Pacifique. Depuis vendredi, des vagues allant jusqu'à 4 mètres de hauteur déferlent sur le littoral péruvien. Des dizaines de bateaux de pêcheurs ont déjà été engloutis et de nombreux habitants des localités côtières ont dû fuir leur domicile. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, visitez le www.rfi.fr.